VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, une double attaque cette semaine contre des soldats gouvernementaux dans la région de Tombouctou et sur l'axe Douenza-Bambara-Maoudé a fait au moins 3 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Ces attaques s'ajoutent à celles qui ont été perpétrées récemment contre la mission onusienne MINUSMA dans la région de Kidal. De toute évidence, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, les djihadistes n'ont pas encore été neutralisés au Mali.
2 casques bleus tués à Kidal, 4 soldats maliens dans la région de Tombouctou, c'est le bilan des récentes attaques djihadistes contre les militaires maliens et les soldats de la MINUSMA au Mali. Si les soldats maliens sont encore tombés dans une embuscade sur l'axe Tombouctou-Goundam, faisant 1 mort et des blessés graves, sur l'axe Douanza-Bambara-Maoudé, c'est une explosion de mine qui a occasionné la mort de 2 militaires maliens, faisant au moins 5 blessés. Leur véhicule qui était en patrouille dans la zone a sauté sur une mine. Les civils aussi sont la cible des djihadistes. Le 2e adjoint au préfet de Goundam a été blessé. Il devrait rejoindre Tombouctou pour une rencontre. Alors qu'une escorte devrait l'amener, il a préféré faire chemin avec les représentants du conseil des cercles. C'est ainsi que des hommes lourdement armés se sont pris aux missionnaires entre Acharan et Tinteloute, en les dépouillant de tout ce qu'ils avaient sur eux, des téléphones portables, des documents de travail et autres objets en nature. Après, ils ont été maintenus comme des otages en recevant des coups de crosse. Par inattention de leurs surveillants, les 2 hommes ont pu s'échapper jusqu'à la voie principale où un véhicule de forêt a fini par les acheminer à Goundam. Pour bon nombre d'observateurs, ces récentes attaques illustrent à souhait le fait que les djihadistes ne sont pas anéantis au Mali. Même s'ils n'ont plus la même force de frappe, force est de reconnaître qu'il existe tout de même sur le terrain au Mali, coupant le sommeil aux soldats maliens et autres casques bleus. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, la présidence a confirmé la mise en vente de 2 jets privés appartenant au gouvernement. Cette transaction intervient dans un contexte de crise économique et de restrictions budgétaires mises en place par le président Muhammadu Buhari. Nani Talani.
La petite annonce publiée dans les journaux pour la vente de 2 avions, un jet privé Falcon 7X et un Hawker 4000, avait été autorisée par la présidence, a fait savoir Garba Shehu, le porte-parole de M. Buhari, dans un communiqué diffusé mardi soir. Garba Shehu a rappelé que lors de sa campagne électorale, Muhammadu Buhari avait promis de couper les dépenses gouvernementales inutiles. La vente de ces 2 avions de luxe devrait rapporter à l'État nigérian près de 20 millions d'euros. L'annonce indique que la mise en circulation des 2 appareils date de 2011 et 2012, années qui correspondent au mandat de l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. L'administration Buhari accuse régulièrement l'administration précédente d'avoir volé des sommes astronomiques dans les comptes de l'État pour expliquer la grave crise économique que traverse le Nigeria et s'est engagé à mener une guerre contre les dépenses inutiles et contre la corruption. Or, le mois dernier, une enquête du journal nigérian The Punch avait créé la polémique en révélant que le gouvernement actuel a dépensé 14 millions d'euros pour l'entretien de ses 10 avions privés malgré la récession. Les comptes de l'État nigérian sont au plus bas en raison des nombreuses attaques de militants sur les infrastructures pétrolières qui ont fait chuter la production d'hydrocarbures et avec la chute du prix du baril du pétrole qui représente 70% des revenus de l'État.
Au Niger voisin, pénurie de gaz butane. Les distributeurs ont cessé toute activité depuis des jours pour exiger du gouvernement le rétablissement d'une subvention de l'État. La pénurie affecte durement les populations habituées à cette source d'énergie depuis 2011. Pour les motifs de cette situation, écoutons Lamine Sidi, le président du groupement des professionnels du gaz nigérien.
Ce qui nous a amené à arrêter nos activités, c'est que nous vivons d'un problème depuis 2011, depuis que le prix a été arrêté, depuis le démarrage de la raffinerie. Avant le démarrage de la raffinerie, le gaz était subventionné par un fonds qui a été créé pour ça, qu'on appelle fonds de l'énergie. Bon, malheureusement, depuis ce démarrage-là, le fonds de l'énergie n'a jamais accompagné. C'est comme si ce sont les sociétés qui sont en train de subventionner le gaz à la place de l'État. On tourne à perte. Ce qu'on vend ne nous permet pas de payer notre principal fournisseur. Donc on était obligé d'arrêter. Et vous savez, un privé, ce qui le pousse d'arrêter une activité, c'est que c'est vraiment grave.
Lamine Sidi, président du groupement des professionnels du gaz nigérien.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Tchad, la grève des fonctionnaires enseignants et étudiants continue dans le pays où le gouvernement a ordonné des réformes draconiennes pour tenter de sortir de la crise économique. Madeleine Alingué, porte-parole du gouvernement, affirme que le Tchad compte sur ses partenaires pour sortir de l'impasse financière.
Le gouvernement est dans la recherche de la stabilisation de la situation financière du pays et dans ce sens-là, toutes les recherches, tous les besoins de stabilisation sont mis en œuvre pour donner aux gens satisfaction. Le gouvernement a prôné des dialogues sociaux pour essayer d'établir un canal de communication qui puisse stabiliser la situation. Nous allons vers nos partenaires économiques et financiers qui, à la considération de l'effort que réalise le Tchad dans la paix et dans la stabilisation de la région, espèrent également recevoir cette assistance et cette aide qui lui permettra de couvrir ses acquis sociaux qu'elle a signés avec ses populations.
Madeleine Alingué, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien. En RDC, l'impasse politique continue. Le mandat du président Joseph Kabila se termine le 19 décembre et il est presque impossible d'organiser les élections d'ici là. Le dialogue national est boudé par une partie de l'opposition, dirigée par Étienne Tshisekedi, qui veut un dialogue inclusif sans le facilitateur Edem Kodjo. Quelle solution alors pour sortir de la crise? Idriss Fall a joint à Bruxelles Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
C'est totalement inacceptable d'imaginer M. Kabila au pouvoir au-delà de décembre prochain. La coalition des Congolais pour la transition appelle M. Kabila à se ressaisir et à quitter immédiatement le pouvoir conformément à l'exigence de la loi fondamentale de notre pays, la Constitution. Étant donné que les élections ont échoué à cause de la mauvaise foi du gouvernement, le faux dialogue a également échoué. La coalition des Congolais pour la transition va procéder d'ici novembre par les consultations de toutes les forces politiques et sociales pour mettre sur pied un gouvernement intérimaire du salut public.
Ce serait sortir du cadre légal, un gouvernement de transition sans avoir aussi la Constitution avec soi.
Justement, la Constitution, dans l'alinéa premier de l'article 64, nous donne ses prérogatives pour sauver la République démocratique du Congo du chaos actuel. Donc nous avons le choix entre laisser le Congo disparaître et nous réunir, nous tous, issus des forces réellement acquises au changement au Congo, dans ce gouvernement du salut public qui va, de façon pacifique, conduire aux vraies élections dans un délai de 24 mois minimum et 36 mois maximum.
Vous parlez de 2 ans alors que la CENI quand même propose 500 jours.
Oui, la CENI propose 500 jours sur instruction de M. Kabila. Nous demandons à M. Kabila, la communauté internationale a également demandé à M. Kabila de se prononcer clairement sur son avenir politique, d'apaiser la tension en disant « Écoutez, j'ai épuisé mes 2 mandats et je vais quitter le pouvoir. » M. Kabila ne veut pas le faire. Il préfère instrumentaliser la CENI et la Cour constitutionnelle qui sont essentiellement animées par ceux qui sont les proches conseillers de M. Kabila et nous ne pouvons pas l'accepter. Personne n'a le droit de replonger le Congo dans un chaos. Ils ont géré et ça suffit. Ils doivent quitter le pouvoir avant qu'on allonge la liste des martyrs.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition. Et pour terminer, le Portugais Antonio Guterres, ex-premier ministre de son pays, est assuré de succéder à Ban Ki-moon comme secrétaire général de l'ONU. Après un vote informel hier du Conseil de sécurité, il pourrait être élu dès aujourd'hui pour succéder au Sud-Coréen Edi Sango.
Aucun des 5 membres permanents n'a voté contre Antonio Guterres. L'ambassadeur russe Vitaly Churkin, qui dirige les conseils de sécurité ce mois-ci, a annoncé un vote formel ce jeudi pour confirmer ses choix par acclamation. Après les faveurs des 15 membres du conseil de sécurité, les candidats retenus devront aussi recueillir les votes favorables de l'Assemblée générale avant de prendre ses fonctions le 1er janvier prochain.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.